Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours des prochaines minutes, des 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, c'est la deuxième édition du Festival Vegan de Montréal qui a lieu ce 7 novembre. C'est au marché Bon Secours et on pourra y rencontrer, l'offre est assez diversifiée, vous allez le voir, là, des auteurs, des commerçants, des chefs, il y aura également des conférences, des démos culinaires, des dégustations, hein. Ça souvent on aime ça si on est un petit peu gourmand. Et on pourra également y rencontrer mon invitée de tout à l'heure, Audrey Scoropade, elle est naturopathe, végétalienne et maman. Et j'ai eu envie de lui poser cette question à Audrey Scoropade. Comment on explique la provenance de la viande à notre enfant sans l'effrayer, sans lui enlever le goût d'en manger? Alors, elle pourra répondre à nos questions tout à l'heure. Et puis, novembre, vous le savez peut-être, c'est le mois... Non, pas des morts, ben, également des morts, mais je m'en allais plutôt dire le mois de la santé des hommes. Et ça, c'est grâce à Movember depuis quelques années. Et j'ai eu envie de vous proposer une chronique hebdomadaire pendant tout le mois de novembre sur différents sujets qui touchent la santé des hommes. Et là, on pourrait penser qu'un mois accordé à la santé des hommes, c'est beaucoup. Quatre entrevues de mon côté, mais... En même temps, je pense que c'est essentiel lorsque l'on sait qu'au Canada, un homme sur deux serait en mauvaise santé. Ce sont les chiffres de la Fondation pour la santé des hommes au Canada. Je trouve que c'est un nombre plutôt effrayant. Il y a plusieurs raisons à ça et on les verra tout au cours de ce mois-ci. Aujourd'hui, pour cette première entrevue, je vous parle du cancer des testicules, deuxième cancer le plus répandu chez les 18-40 ans après celui de la peau. Et je le fais avec Dr Paul Perrotte, uro-oncologue, professeur agrégé de clinique au service d'urologie du CHUM. Bonjour, Dr Perrotte.
Bonjour, Mme Paquette.
Le cancer des testicules, je me sens peut-être un petit peu mal placée pour en parler. Une chance que vous êtes là pour m'accompagner dans ce sujet, Dr Paul Perrotte. Eh bien, ça touche des hommes plutôt jeunes. Est-ce qu'il y a une raison à ça?
En fait, c'est lorsque le testicule se développe de façon un peu plus rapide à la puberté que les cellules à l'intérieur du testicule se multiplient. S'il y en a certaines qui sont... pas très bien définies, qui ont une architecture pas tout à fait normale, elles peuvent se développer en cancer. Donc, c'est à ce moment-là que habituellement les hommes vont se rendre compte d'une masse, d'une bosse, quelque chose dur dans les testicules. Donc, les jeunes hommes, les jeunes fin de l'adolescence, début de l'âge adulte.
Parce que c'est assez rare que les cancers se développent. Bon, souvent, on est habitué à des cancers qui arrivent à des âges un petit peu plus tardifs. C'est pas le cas avec le cancer des testicules. Donc, ce serait lié à la croissance. C'est une des causes.
C'est lié, je vous dirais, plutôt à des anomalies qui arrivent très tôt dans le ventre de la mère.
Ah,
et ouais. Que lorsqu'il y a une croissance, ces anomalies-là sont multipliées. Donc, lorsque le testicule va croître à l'adolescence, quand la puberté arrive, à ce moment-là, c'est des anomalies qui sont déjà là, pratiquement à la naissance, vont être mises en évidence. D'ailleurs, un des facteurs de risque, le principal, mm-hmm. je dirais, du cancer de testicule, c'est que les petits garçons naissent avec les testicules qui ne sont pas descendus dans le scrotum, dans mm-hmm. la bourse. Donc, les testicules sont encore, sinon, dans le canal, même dans le ventre, des fois, des bébés. Et le fait qu'il n'ait pas été descendu à la naissance nous montre où il y a un risque qu'il y ait des cellules anormales. Et ces cellules-là, à la puberté, vont se multiplier parce que c'est là que le pénis grossit, mm-hmm. que le testicule grossit. Et lors de cette grande activité de croissance, ben, les cellules cancéreuses en profitent elles aussi pour croître.
Mais Dr Perrotte, lorsqu'une maman met au monde un enfant, un petit garçon, et qu'elle constate ça, est-ce qu'elle doit s'inquiéter?
elle ne doit pas s'inquiéter, elle doit consulter. De toute façon, les pédiatres font toujours un examen lorsque le bébé naît. Et si, de fait, le bébé garçon n'a pas les testicules descendus, il va avoir un suivi. Mm-hmm. C'est pas parce que les testicules ne sont pas descendus qu'ils auront nécessairement un cancer, mais c'est là qu'il faut être un petit peu plus vigilant. Et si les testicules ne descendent pas d'eux-mêmes, il y a des opérations que les urologues pédiatriques font, les chirurgiens pédiatriques font, pour redescendre le testicule dans le scrotum, pour qu'il puisse bien se développer, mais aussi pour qu'on puisse l'examiner facilement, justement, à la puberté et à l'âge adulte.
J'imagine que s'il y a eu des cancers testiculaires dans notre famille, on est peut-être également plus à risque?
Oui, de fait, c'est un des facteurs de risque, le cancer testiculaire dans la famille, bien que ce ne soit pas considéré comme un cancer héréditaire. Le fait qu'il y en ait un membre de la famille qui pourrait avoir ça, on parle principalement père, fratrie, mm-hmm. À ce moment-là, il faut être plus vigilant.
Est-ce que l'on sait si les habitudes de vie, tabagisme, sédentarité peuvent également compter dans la balance?
Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est une des raisons. Hein, ce genre d'habitudes de vie qui ne sont pas tout à fait saines a un impact au long cours. Donc, c'est pour ça que ce genre d'habitudes de vie-là ont surtout un impact sur les cancers qu'on trouve dans l'âge adulte plus tardivement, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, colorectal, etc.
OK. Je parlais tout à l'heure, Dr Perrotte, des nombreuses raisons pourquoi les hommes sont peut-être moins en santé que les femmes. Un sur deux, je disais tout à l'heure, là, 50 % c'est énorme. Il y a plusieurs raisons à ça. Entre autres que les hommes sont moins portés à consulter, se tiennent loin des médecins, loin des hôpitaux. Peut-être parce que pour eux, c'est gênant de parler de tout ce qu'il y a à leurs organes génitaux. Contrairement à nous, aux femmes, hein, aussitôt qu'on a nos premières règles, tout de suite, on est habitué à aborder ces sujets-là. Et pourtant, j'imagine qu'avec le cancer testiculaire, un diagnostic précoce, ça peut changer beaucoup de choses.
Absolument. C'est vrai pour le cancer testiculaire, mais comme toutes les autres formes de cancer. Et d'ailleurs, une très belle campagne publicitaire là, qui a été faite par le groupe de support du cancer testicule qui a eu lieu au printemps dernier, disait qu'il fallait faire l'auto-examen des testicules une fois semaine, s'assurer qu'il n'y a pas de bosse, rien de dur. Vous savez, moi, comme uro-oncologue, je traite aussi des hommes qui ont des cancers de la prostate, je traite aussi des hommes qui ont d'autres problèmes et je vais me déplacer parce qu'il y a une manifestation là ici, puis on a beaucoup de bruit.
Donc, on l'entend avec
vous. C'est l'automne mouvementé qu'on a. Donc, les hommes ont plutôt le modèle, si c'est brisé, c'est comme leur voiture, je vais aller au garage.
Oui.
Alors que les femmes, de longue date, vous l'avez bien dit, ont plutôt une approche préventive. Et je pense que ça passe par l'éducation, que ce soit par la communauté médicale, que ce soit tôt à l'école, que les hommes, les femmes devraient s'assurer de leur bonne santé puis faire périodiquement là, certainement des examens.
Mm-hmm. L'observation des testicules une fois par semaine, ça me semble beaucoup, Dr Perrotte.
Ben, quand on prend notre douche, puis on parle, puis on voit qu'il y a quelque chose de dur, ça peut être un petit peu plus espacé, mais c'est tellement facile lorsque les gens sont sinon dans le bain, sinon dans la douche, de s'assurer là, qu'il n'y a pas rien de suspect, d'inquiétant.
Donc, ça peut se détecter par une petite masse, quelque chose de dur, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres symptômes au cancer testiculaire?
Donc, une des choses qui est intéressante dans le cancer testicule, c'est que lorsque ça se produit, il y a certains cancers qui produisent toutes sortes de substances qui ne sont pas là normalement. Et ces substances-là peuvent donner des symptômes, peuvent faire grossir les seins, peuvent même faire un écoulement au niveau des seins. Un cancer bien avancé qui serait sorti du testicule, ça pourrait se développer avec des métastases puis donner des douleurs abdominales. Mais habituellement, c'est une bosse dure dans le testicule qui n'est pas toujours douloureuse. Et lorsqu'on a quelque chose qui est plus dur comme du bois, là, quelque chose de solide, à ce moment-là, il faut consulter pour s'assurer que est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y adresse ou pas.
La bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est un cancer qui se guérit assez bien.
C'est un cancer, en fait, qui se guérit très, très bien. Vous savez, la survie globale, même d'une maladie métastatique, est de l'ordre de 90-95%, dépendamment du stade. Donc, c'est excellent. S'il y a eu une chose que la chimiothérapie des débuts des années 80 a fait avec un agent qui s'appelle le cisplatin, c'est que ça fait que le taux de guérison qui était vraiment très mauvais dans les fins des années 70 est maintenant là 90-95%. Donc, clairement que le diagnostic d'un cancer du testicule, ce n'est pas une sanction de mort dans la vaste majorité, Dieu merci, chez des jeunes adultes.
Oui, c'est ça, surtout que ça touche des jeunes hommes là, qui sont vraiment au début de leur vie active.
Tout à fait. Et l'autre aspect qu'il faut adresser, naturellement, c'est que les testicules, c'est à la fois le producteur de la testostérone, donc le développement des caractères sexuels, mâles, la voix, la force, le poil, la libido aussi,
la fertilité.
Et la fertilité. Ben oui. Donc, la nature étant bien faite, même avec un seul testicule, s'il est de bon volume et normal, et la testostérone et la fertilité n'est pas compromise. Donc, ça, c'est une bonne chose.
Ce sont des bonnes choses, mais est-ce qu'il y a quand même des impacts sur la santé physique, mais aussi la santé psychologique des hommes qui sont touchés par le cancer des testicules?
Bien, clairement. Donc, c'est sûr que quand on parle du mot cancer, la première idée de la mort, donc ça prend une approche, maintenant on est bien conscient de ça, là, qui est globale, donc avec à la fois des psychologues, des sexologues, discuter de cet aspect-là. Sur la sexualité, il y a des hommes qui sont très troublés de ne plus avoir de testicules d'un côté, et on met à l'occasion des prothèses testiculaires pour faire quand même combler ce vide. Mais clairement que comme tout cancer, en fait, nous ici, nous sommes chanceux au CHUM, nous avons une équipe interdisciplinaire, multidisciplinaire avec sexologues et psychologues pour justement supporter les gens. Les groupes de support est aussi une autre façon pour les gens qui ont un cancer du testicule ou qui ont la crainte d'avoir un cancer du testicule, d'avoir du support.
Oui. De quelle façon ça peut toucher la santé sexuelle?
Bien, en fait, je vous dirais, si jamais il y a un autre problème à l'autre testicule, soit un mauvais développement, le taux de testostérone pourrait être plus bas que ce qui est la normale. Et à ce moment-là, donc, ça diminue la libido, on a moins le goût. Ça peut, chez des jeunes adultes ou jeunes adolescents, ça peut compromettre le développement des caractères sexuels au cours du secondaire. À ce moment-là, ça prend un supplément. Et nous avons certains patients qui... après qu'on ait guéri de cancer, on vérifie les dosages de testostérone et pour lequel on a besoin de donner de la supplémentation.
C'est ça, des suppléments de testostérone,
oui. Hein,
c'est de ça dont vous parlez. Est-ce que on doit absolument enlever un testicule lorsqu'il y a cancer des testicules?
Donc, la réponse à ça, c'est oui.
OK.
Les seules exceptions sont que, malheureusement, il y a des gens qui ont des cancers des deux côtés. Et quelquefois, des gens ont des cancers dans un testicule qui reste. Et à ce moment-là, si les masses dans le testicule sont très petites, on peut, à l'occasion, faire une préservation de la partie du testicule qui n'est pas atteinte. Mais l'ablation fait partie du traitement et nous permet aussi de faire le diagnostic. Parce que dans le cancer du testicule, il y a plusieurs sous-types de cancer et les traitements peuvent varier selon ces sous-types-là. Donc, c'est nécessaire d'enlever l'organe. L'autre chose, c'est que le testicule lui-même a une genre de barrière qui protège un peu contre l'effet de certains agents de chimiothérapie qu'on voudrait utiliser. Donc, laisser un testicule en place, puis qu'on doive donner de la chimiothérapie, il y a des chances que la chimiothérapie n'agisse pas dans le testicule.
Est-ce qu'il y a différents types plus dangereux que d'autres?
Bien, je vous dirais, il y a un cancer, c'est relativement facile, il y a un cancer qu'on appelle le séminome, puis un cancer qu'on appelle le non-séminome. Dans le non-séminome, il y a plusieurs sous-types, et je vous dirais que le séminome est plutôt un cancer plus indolent, et le cancer non-séminomateux est un cancer qui est un petit peu plus virulent, un peu plus tendance à avoir une propension à se disséminer.
OK. Maintenant, Dr Perrotte, le rôle de la conjointe dans tout ça, c'est quoi? Parce que, bon, moi, je suis une femme, évidemment, je m'intéresse à ça, comment encadrer, comment accompagner, parce que, évidemment, lorsqu'il y a un diagnostic de cancer, ça touche tout le monde autour. Là.
Clairement. Donc, je vous dirais, puis c'est vrai pour les jeunes adultes qui ont le cancer testicule, puis les autres, il faut trouver un équilibre entre le support et aussi l'apitoiement. Il y a plusieurs gens qui trouvent que quelquefois, peut-être pas les conjoints, mais aussi les gens autour, qui ont l'impression qu'après un certain temps, c'est eux-mêmes qui doivent supporter leurs amis, leur famille, qui sont dévastés des fois par la nouvelle. Donc, c'est un équilibre entre être capable de supporter, d'être présent. Je pense que juste le fait d'être présent, d'être là, d'accompagner, aide beaucoup. Et le fait d'être... il faut être empathique sans être sympathique, sans non plus tomber dans le mélodrame. C'est une période difficile. Ça peut être quelques traitements, pas juste le fait d'enlever le testicule. Des fois, il y a de la chimiothérapie, des fois, il y a de la radiothérapie. Mais au global, il ne faut pas perdre de vue que la vaste majorité de ces hommes-là vont s'en tirer, vont vivre une vie active.
Ben oui.
Puis c'est ça qu'il faut voir. Mais c'est sûr que... Puis vous savez... Il y a les plusieurs phases là, quand on apprend une mauvaise nouvelle, alors du désespoir, à la colère, la négation. Je pense que ce deuil-là se fait et se vit par la personne qui est atteinte du cancer, mais se vit aussi, puis il faut le reconnaître, par les gens autour.
Oui. Et de là, l'idée de s'entourer par des psychologues, par des sexologues, cette équipe multidisciplinaire dont vous parliez tout à l'heure au CHUM. Maintenant, Dr Perrotte, on fait comment pour contrer les tabous qui sont liés à ce cancer-là? Puis à tous les autres cancers-là qui sont liés à la santé des hommes, je le disais tout à l'heure, c'est difficile pour les hommes de parler de tout ce qui touche là en bas de la ceinture. Vous qui travaillez tous les jours avec cette clientèle-là, ça serait quoi votre message?
Le seul message, je pense qu'il faut regarder ça comme étant une partie du corps qui est normale, là, puis c'est de valeur qu'on ait encore notre vieille éducation judéo-chrétienne qui transcende les décennies, année après année. Les femmes sont capables de parler de leur sein, sont capables de parler avec leur gynécologue de leur menstruation, et les hommes aussi doivent faire ça. Puis je pense que des émissions comme vous faites là, de parler des choses telles qu'elles sont, c'est la seule façon. Il faut réaliser que c'est pas parce qu'on a un testicule en moins qu'on est moins homme. Ce n'est pas parce qu'on a un jour un cancer de la prostate qu'on est moins homme.
Mm-hmm.
Parce que la définition d'une personne, homme ou femme, c'est pas un organe, là, c'est l'être entier. Et ça ne passe que par être capable d'en parler et commencer tôt, puis de le répéter.
Oui.
Parce que une des choses que nous, on n'a pas appris, les hommes, c'est, puis pourtant on aurait dû l'apprendre, c'est de ce que les femmes ont fait avec le cancer du sein à la fin des années 70-80. C'est de même que ça devrait être. Comment ça se fait que pour une marche pour le cancer du sein, on a 20 000 femmes et accompagnants, puis quand on fait quelque chose de la prostate, on a la moitié moins de monde ou des fois un quart. Je crois que c'est juste qu'il faut que les gens changent un peu de mentalité, les hommes principalement, puis qu'ils traitent leur corps comme étant quelque chose qu'il faut en prendre soin et prévenir. Et, mais c'est pas encore entamé.
Non.
Plusieurs hommes se présentent souvent tardivement, souvent font de la négation lorsqu'ils ont des symptômes. Ça veut pas dire de courir toujours chez le médecin à la moindre chose, mais ça veut dire de quand même être vigilant. Puis de consulter quand c'est le temps.
Oui. En terminant, Dr Perrotte, puisque je ferai une fois par semaine pendant tout le mois de novembre une émission sur la santé des hommes et que l'on constate qu'il y a véritablement un problème, je vais vous demander qu'est-ce que l'on peut faire comme action concrète pour améliorer la santé des hommes et pour aider toute la société là, à mieux les encadrer.
Oh mon Dieu, c'est une question qui est large. Comme je vous dis, si vous avez un conjoint, si les gens ont un père, un frère, juste de leur dire, parce que là on parle du cancer de testicule, de s'assurer que s'ils sont dans les âges, de bien s'examiner, que s'ils n'ont pas vu leur médecin puis sont en haut de 50 ans, ils devraient au moins avoir un bilan annuel. Dr Barrette est supposé nous régler le problème des médecins de famille, donc ça va aussi faciliter cette partie-là. Puis, vous savez, vous l'avez bien dit en début d'émission, on dit que 50% des gens sont pas en forme. La forme et la santé, c'est deux choses qui sont intimement reliées aussi.
Oui.
Donc, si tout le monde était capable d'avoir un poids santé, bien manger, puis faire de l'activité physique, un des plus grands tueurs demeure les maladies cardiaques. Hein, pour les hommes en Amérique du Nord, on pourrait régler ça, mais ce n'est que par vous, par nous, par tout le monde qui en parle, par l'éducation qu'on va réussir à améliorer la situation.
Oui, et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui passe par accepter de souffrir, d'avoir mal et de le dire, j'ai mal, je ne vais pas bien, c'est comme ça, et qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux? Ça peut passer par là, là c'est un début en fait.
Oui, puis c'est ça, certainement, probablement aussi une des choses, on a parlé de la sexualité des hommes, mais aussi le sentiment d'être diminué, donc on aime mieux pas en parler, puis en fait, on serait mieux plutôt d'en parler puis de régler le problème, mais les hommes ont peur d'être diminués, d'être arrêtés, d'être inactifs ou d'être dépendants pendant un certain temps pour se soigner, ça fait raison.
Docteur Paul Perrot, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous êtes uro-oncologue au CHUM, professeur agrégé de clinique au service d'urologie. On vous souhaite un très bon mois de novembre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Audrey Scoropade.
Bonjour, ça va bien?
Oui, vous aussi?
Oui, merci beaucoup.
Festival vegan de Montréal qui a lieu ce samedi. Vous serez là pour y présenter une conférence, en fait, ou peut-être même une discussion parce que... C'est une discussion sur l'alimentation végane pour jeunes enfants et leurs parents. Et vous serez là pour faire goûter un pudding de chia, framboise et lait de coco. Mais pour débuter, Audrey, la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est comment on peut expliquer à notre enfant la provenance de la viande? Et ce questionnement-là me vient parce que dernièrement, je suis allée visiter une ferme avec un enfant de 3 ans et demi et il n'associait pas du tout le cochon avec le bacon mangé le matin même. Mais en même temps, on peut hésiter un petit peu à aborder ces questions-là avec notre enfant. On ne veut pas l'effrayer.
Oui, je comprends. C'est sûr que moi, j'ai parti pris par rapport au véganisme, juste au végétalisme, parce que nous, on est végétaliens, mon conjoint et moi, et ma petite, d'une petite d'un an et demi. C'est elle qu'on entend qui était juste à côté de moi. Donc, c'est sûr que pour moi, de dire la vérité à notre enfant dès le début, c'est sûr que c'est... peut-être la façon de faire pour nous, mais je comprends qu'il y a d'autres familles qui c'est quand même un sujet sensible. Je prends par exemple, moi, ma sœur jumelle a toujours été végétarienne parce que vers l'âge de 3-4 ans, elle demandait à ma mère, c'est quoi la dinde qui est sur la table pour l'action de grâce, tu sais? Mais voyons, c'est un animal mort, est-ce qu'il est mort, cet animal? Ma mère a dit oui. Et on tue les animaux pour les manger. Carrément, tu sais, je veux dire, carrément, elle lui a dit la vérité. Puis ben ma sœur a dit ben ok pourquoi on fait ça, tu sais, la peine, puis elle a dit ben moi je veux jamais manger d'animaux. Mm-hmm. À partir de ce jour-là, elle est devenue végétarienne. Puis je pense que c'est un sujet délicat, faut le dire d'une manière peut-être faut y réfléchir. En même temps, c'est la vérité, hein, c'est vraiment ça.
Oui.
Puis une socialisation justement par rapport à d'où nos aliments viennent, la nourriture vient de où. Pas nécessairement juste avec la viande, mais aussi même si les légumes, ils poussent où. Les enfants, des fois, ils n'ont jamais vu une carotte pousser dans la terre. Là.
Oui.
Donc, je pense que c'est pour tous les aliments en général. Fait que de dire la vérité, les gens me demandent, moi, comment je vais dire à mon enfant. Ben, il y a des livres qui existent aussi en maintenant, des livres d'enfants qui sont intéressants pour les enfants à partir de 3-4 ans. Entre autres, il y a un livre qui s'appelle « Ne nous mangez pas ». Puis, il y a aussi « Vegan is love ». Puis, c'est vraiment par Ruby Rock. Ça l'explique en fait pourquoi on ne mange pas les animaux, pourquoi certaines personnes choisissent de les manger, puis qu'est-ce qui se passe vraiment, mais d'une façon, il y a des caricatures, il y a des beaux faits, puis en même temps, c'est expliqué de manière très douce et c'est pour les enfants, une approche pour les enfants, mais aussi les parents. Ça peut être un outil en fait pour nous aider à expliquer justement à nos enfants d'où provient la viande, puis comment ça se rend dans notre assiette.
Une approche qui est assez transparente à ce que je peux comprendre, puis assez simple également, là, comme on pourrait aborder d'autres sujets.
Oui, absolument. Je pense. Puis ça commence à rappeler, moi, je crois beaucoup à dire à nos enfants aussi. Enfin, on doit leur montrer l'exemple, puis peut-être on peut peut-être attendre un peu plus tard avant de t'aborder, mais en général, les enfants ont tendance à les prendre vraiment pour des bébés. Ils sont plus intelligents qu'on le croit, ils sont plus conscients aussi de ce qui se passe, tout leur questionnement, puis je pense qu'il faut être honnête avec eux. Il faut commencer avec l'honnêteté, puis on peut épargner les détails qui sont peut-être plus c'est morbide ou qui sont pas nécessairement nécessaires, mais de dire la vérité. Tu sais, là, oui, c'est de la chair animale, c'est un animal, c'est ça qu'on doit faire pour le manger. Mm-hmm. C'est notre choix en tant que famille, bien sûr.
Bon, je l'entends bien, vous êtes maman, on entend votre petite à côté de vous, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes végétalien, vous adoptez ce régime-là avec elle également, donc ça signifie qu'il n'y a pas de risque pour la santé, là, même d'adopter ce régime-là avec un petit enfant.
Bien, c'est sûr que comme dans n'importe quelle, mon opinion à moi est que comme dans n'importe quelle diète ou régime de vie ou alimentation, pour un enfant ou comme un adulte, il faut manger diversifié, il faut s'assurer d'avoir tout ce qu'il nous faut. Fait que c'est certain qu'il peut y avoir des gens qui sont végétaliens, mais qui ne mangent pas super sainement. C'est comme un omnivore aussi. Fait que la réponse, dans le fond, c'est que oui, il peut y avoir des carences, comme dans n'importe quel type d'alimentation, je crois. Donc, il faut, oui, être vigilant, faire attention que nos enfants et nous-mêmes, on mange adéquatement, puis qu'on mange suffisamment de protéines, d'acides aminés, de fer, de calcium et tout ça. Puis, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le monde végétal, dans la règle végétale. Il y a tous ces aliments-là, ces nutriments-là. Mais bien évidemment, il faut diversifier, puis être quand même bien informé. Mm-hmm. C'est sûr.
Maintenant, je veux aborder avec vous, Audrey, le Festival Vegan 2015 qui a lieu ce samedi 7 novembre. Bon, il y aura votre conférence, bien sûr, mais il y aura aussi d'autres rencontres qu'on pourra faire. Est-ce qu'il y a vraiment des moments à ne pas manquer, là? Est-ce que vous avez des petites préférences pour nous guider?
Bien, vraiment, c'est une journée qui, en plus, l'année passée, c'est la première édition, puis ça a été un succès. J'ai vraiment tout aimé. C'est sûr qu'il y a des conférences super intéressantes. Pour les athlètes aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent en tant qu'athlète, comment manger végétalien, est-ce que c'est possible? Donc, il va y avoir des gens qui vont répondre à ces questions-là. Des démos culinaires, c'est des fois des idées recettes qui nous manquent pour incorporer, même si tu es vegan, là, tu sais, on a besoin des fois d'autres inspirations. Donc, les démos culinaires vont être intéressantes pour ça. Et sinon, il y a des compagnies qui vont avoir leurs produits qui sont justement végétaliens ou vegan, qui mettent de l'avant et on va pouvoir en fait goûter. Il va y avoir plein de dégustations. Fait que c'est vraiment une belle opportunité de découvrir plein de produits. Et puis en même temps, c'est ça, c'est un beau rassemblement.
Oui, tout à fait. Et on glissera le site, nous, du Festival Vegan de Montréal sur le nôtre, également le vôtre, audreyantidote.com. Merci beaucoup, Audrey Skoropad. Ce sera un plaisir de vous rencontrer ce samedi 7 novembre au Marché Bon Secours.
Merci beaucoup. Bonne
journée. Au revoir.
Rémi
Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain, 14h. On parle du rôle des proches aidants dans notre société. Portez-vous bien d'ici là. Bye-bye.